Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver dans le cadre de nos conversations, Daniel. Et avec vous, on va parler aujourd'hui de cette réunion la semaine dernière de l'OTAN à Vilnius. L'Occident s'est donc réuni en Lituanie. Est-ce que ça veut dire, Daniel, que ce que vous nous disiez précédemment, comme quoi c'était la Chine qui monopolisait un petit peu l'initiative, est-ce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas dire finalement que l'Occident reprend du terrain par rapport à l'initiative et que cette même initiative, par conséquent, elle est partagée plutôt que uniquement monopolisée par la Chine?
Oui, vous avez raison, il était temps. Il était temps, mais c'est vrai que la Chine avait besoin au fond, de rattraper un grand retard diplomatique, puisque pendant 3 ans, elle s'était isolée elle-même. Et donc, il y a eu ce besoin formidable pour la Chine de revenir dans le monde. Mais c'est pas encore gagné, parce que la Chine fait beaucoup d'efforts pour montrer qu'elle s'ouvre à nouveau, mais elle se heurte une fois à pas mal de scepticisme, parce que les choses ont beaucoup changé. Et puis, Xi Jinping avait été réélu, donc il avait une grande joie. Il avait envie de la partager avec tout le monde. Donc, il était temps que l'Occident prenne à son tour l'initiative. Il y en a eu deux, vous l'avez remarqué. Il y a eu d'abord la visite de Blinken, qui était attendue depuis longtemps aux États-Unis, qui a permis au fond aux Américains de confirmer ce qui avait été dit entre Biden et Xi Jinping en novembre dernier à Bali, vous vous en souvenez. Là, c'était une initiative conjointe. Ils avaient mis un nombre de limites à leur confrontation. C'était assez rassurant d'une certaine manière, pas de guerre à propos de Taïwan et puis pas de guerre froide. Donc ça, c'était la visite de Blinken. Et puis là, c'est la Russie, là, c'est la guerre en Ukraine. Et l'Occident est réunifié depuis cette guerre en Ukraine autour de l'OTAN. Il y a eu l'entrée de la Finlande, la Suède, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, il fallait dire à la fois oui et non à Zelensky. C'était assez compliqué. On lui a pas dit oui pour l'entrée dans l'OTAN parce que la stratégie des États-Unis et de l'Occident, c'est quand même de ne pas apparaître comme des co-belligérants dans cette guerre. Et donc, annoncer aujourd'hui en pleine guerre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est faire immédiatement de l'OTAN un co-belligérant. Donc, c'était une limite qu'il semble que c'est ce qui n'est pas compris. Bon, on l'a rassuré par mille autres garanties, donc il n'est pas parti trop, trop. Mais donc, on voit bien que dans les deux cas, avec la Chine et avec la Russie, l'Occident, au fond, clarifie ses positions. C'est une clarification.
Alors finalement, Daniel, est-ce qu'on peut saisir cette occasion pour essayer de mieux comprendre la position de l'Amérique et de l'Occident face à ces deux pays?
Oui, mais puisqu'on y voit plus clair, avec la Chine, si vous voulez, l'Occident est uni autour d'une idée. On ne se sépare pas de la Chine. On ne fait pas de découplage. Parce qu'au fond, découplage, c'est la guerre froide. On se sépare, c'est un rideau de fer, même s'il n'est pas absolu. Et or, c'est pas du tout ça que les Occidentaux ont en tête. La proposition occidentale à la Chine, celle qui a été faite par Blinken récemment, et là, tout le monde est aligné là-dessus, c'est de dire, continuons à travailler ensemble, faisons des échanges commerciaux, on a besoin de vous, vous avez besoin de nous. Et donc, d'ailleurs, malgré des droits de douane très élevés imposés par les Américains aux produits chinois et aux produits américains qui rentrent en Chine, ils se sont imposés mutuellement des droits de douane, jamais les échanges entre les deux pays n'ont été aussi importants. Et jamais le déficit commercial des États-Unis n'a été aussi large. Donc, c'est un peu, rien n'a changé. Et puis, sur le plan des implantations à l'étranger, vous savez que l'usine Chine, elle est composée de centaines d'entreprises européennes, américaines et japonaises qui sont sur son sol. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, il y a plusieurs rapports qui sont sortis des chambres de commerce qui représentent les intérêts des entreprises en Chine et qui disent tous la même chose. À 70%, les entreprises qui sont en Chine implantées ont décidé de rester. Et même d'accroître leurs investissements. Et il y a un tiers, un petit tiers qui est dans l'hésitation. Ils n'ont pas dit qu'ils partiraient, mais ils n'ont pas dit non plus qu'ils resteraient. Et pour des investissements à venir, ils sont plutôt en train de regarder des alternatives. Là, il y a deux pays qui sont en train de profiter de mouvements, de réflexions. C'est le Vietnam et l'Inde qui seront des substituts à la Chine. Mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où les Occidentaux proposent à la Chine d'être, de continuer comme avant, mais il y a une exception qui a été très claire par Blinken, c'est tout ce qui est technologique. On ne peut plus vous aider à vous renforcer militairement et technologiquement, parce que c'est le nerf de la guerre économique. Donc, on va mettre beaucoup de holà dans ce qu'on peut vous livrer. Et puis, c'est une véritable guerre des semi-conducteurs qui panique d'une certaine façon la Chine, parce que sans semi-conducteurs de dernière génération, comment peut-on avancer dans l'intelligence artificielle et le cyber, qui sont les deux clés de la technologie? Et donc là, en fait, les Chinois disent non, vous ne pouvez pas jouer cette carte, tout va bien, sauf la technologie. Parce que quand vous nous parlez alors il y a un terme qu'on entend de plus en plus qui est de-risking. On limite le risque. Et donc les Occidentaux disent, voilà, on veut limiter le risque de la menace chinoise en limitant nos transferts de technologie. Et puis en se rendant plus indépendants de la Chine pour certaines fournitures, les matières premières pharmaceutiques, les terres rares, etc. On va essayer quand même de se rendre indépendants. Les Chinois disent ça, quand vous nous dites ça, c'est agressif, c'est agressif. Vous ne pouvez pas à la fois nous dire rien ne change, mais là, non. Et donc là, c'est vraiment le cœur de la relation entre l'Occident et la Chine. La Chine dit, nous considérons que cette guerre technologique que vous nous menez, elle n'est pas marginale, elle est centrale et elle est agressive. Et donc, la confrontation entre nos deux coalitions, entre nous et vous, elle va continuer à durer et elle va se durcir. C'est ça un peu le résultat de ce qu'on vient de vivre ensemble et qu'on a analysé précédemment. Avec la Russie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les Occidentaux disent nous sommes unis pour aider l'Ukraine, mais on voit bien quand même que tout le monde n'est pas d'accord sur l'ampleur de l'aide, et en particulier les Européens sont divisés de l'intérieur. Tous ceux qui sont proches, Européens proches de la Russie, commencer par la Pologne, sont beaucoup plus allants, sont beaucoup plus prêts à s'engager, ont défendu l'idée d'ailleurs de faire entrer l'Ukraine le plus vite possible dans l'OTAN. Et puis vous avez les grands pays comme la France et l'Allemagne, qui sont quand même beaucoup plus prudents. Et pourquoi ils sont plus prudents? Parce que eux, ils pensent déjà à l'après-guerre. Et ils se disent, quand il y aura un compromis trouvé, on ne sait pas encore lequel, mais quand il y en aura un, nous, on va continuer à vivre côte à côte avec la Russie. Et donc, on a besoin de trouver un modus vivendi avec la Russie, alors que vous, les Américains, d'ailleurs comme les Chinois, vous êtes loin de tout ça. Et donc on voit bien quand même que par rapport à l'Ukraine, il y a les va-t-en-guerre, hein, on pourrait dire, c'est-à-dire au fond les Américains qui poussent l'Ukraine à son but de guerre, qui est de reconquérir les 20% perdus de territoire. Et vous avez de l'autre côté les Chinois qui disent aux Russes, vous avez raison de résister. On va vous aider aussi jusqu'au bout. Vous voyez, ça c'est. Et puis au milieu, vous avez ces Européens divisés, et puis surtout tous les pays tiers dont on a parlé dans une conversation précédente, qui disent mais tout ça est un désastre, parce que la guerre en Ukraine, plus elle se prolonge, plus elle va accentuer la crise économique dont nous sommes les premières victimes. Donc on voit bien que c'est des signes, un grand camp de ceux qui sont prêts à pousser l'Ukraine à un compromis, c'est-à-dire à se couper un bras, c'est-à-dire perdre 20% de son territoire. Donc tout ça n'est pas encore dit brutalement, ce n'est pas mis sur la table, mais c'est déjà en filigrane de tout ce qui se passe en ce moment.
Finalement, Daniel, que conclure de l'opposition qu'il existe entre les camps de la démocratie et les camps de l'autocratie?
Eh bien, que ce ne sont pas des camps. Bon, on avait dit que ce n'est pas des blocs. Le mot camp est encore trop fort. On peut parler plutôt, et on en parle de plus en plus, on utilise le mot coalition. Donc, on a deux coalitions, c'est-à-dire au fond temporaire et fragile, hein, entre la coalition des soi-disant démocraties et la coalition des pays autocratiques qui sont face à face, mais qui sont à l'intérieur dans le doute. Et parce que plus les choses se prolongent, plus la confrontation entre les États-Unis et la Chine se prolonge, plus la guerre en Ukraine se prolonge, plus on a un désastre économique dans le monde. Et en particulier, on voit la course aux armements reprendre et mobiliser des milliards. Donc, si vous voulez, on est dans une situation qui semble claire, mais qui ne l'est pas. Et donc, le débat fait rage à l'intérieur de ces coalitions. Et comme ces coalitions, par définition, peuvent se défaire, on va assister certainement dans les mois qui viennent, plus les conflits vont se durcir, à des questionnements et à des réalignements. Donc, rien n'est joué. Je vous disais que tout est clair. En fait, rien n'est vraiment clair. Et donc, ça nous donnera du grain à moudre pour les conversations suivantes.
Pour les conversations suivantes qu'on aura le plaisir d'avoir avec vous, Daniel, merci beaucoup pour ces éclairages. Comme chaque fois, très très bonne semaine et à la semaine prochaine.
Au revoir.